Now, ladies and gentlemen, this is Rockers.
Roger The Blind.
The Blind?
B-L-I-N-D.
Ah oui, 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 j'ai compris, j'ai du mal des fois avec l'anglais. C'est vrai, parlez de vos problèmes.
Mais
Dieu.
c'est rien.
Non, non, pour le moment. Et vous me voyez quand je gesticule en face de vous.
Oui, non, quand même, vous êtes quand même qu'à 2 cm de
moi. Ah ouais, mais vous voyez nombre quand même qu'il s'agit. J'ai un pull blanc, j'ai mis exprès pour que vous
et
me voyez.
Et Tom qui est revenu au milieu des tracteurs,
oh,
il, sent
vache,
encore, il sent encore la terre,
ouais,
il sent la terre,
purins,
il sent la terre.
Et
c'est tout ce retard de 8 minutes parce qu'effectivement.
Il y avait une manif paysanne.
Voilà, et notre technicien chéri, il était coincé dans la ville.
Et surtout, il a fait le compte de ne pas prendre son scoot. Il aurait dû prendre son scoot.
Ah bah ça, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit.
Mais on aurait été à trois sur votre scooter, ça aurait été difficile de revenir à la radio.
Bah, vous savez, une malice paysanne, en plus ça bloque la ville. Et vous voyez, c'est un argument de plus pourquoi j'aime pas la campagne. C'est bourré de
en
ces
fait,
gens-là.
Là, vous êtes en ville, hein, comme on dit.
Ah oui, oui, oui. Bah, voilà, je demande à nos amis paysans qu'ils nous laissent les urbains tranquilles. Et puis voilà, moi j'irai pas les faire chier, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Non, chacun son monde, c'est tout. Allez, on s'écoute un petit disque. Oh, bah après je dirai ce que vous écoutez, parce que là on est parti un peu essoufflé.
Je crois que c'est la programmation, hein, Roger.
Oui.
Et vous m'avez mis quoi du coup? Ah oui, un bon vieux, oui, tiens, The Crusher des Ramones, considéré par les plus grands spécialistes sourds du monde du punk comme le meilleur morceau punk de l'histoire.
Vous êtes sûr qu'il fait du punk et Ramones?
Yeah.
Voilà, et je vais complètement dire, vous écoutez les Grignoux tous les mercredis, allais-je dire. Bon, c'est vrai que mercredi dernier, vous voyez, les circonstances font que des fois, on est obligé de zapper une petite émission. Mais là, on y est. Jusqu'à 21h30, ça y est, je le tiens, le 21h30. Tous les mercredis, rediffusion le dimanche à 15h. Oh, j'ai oublié de dire qu'on était les Grignoux. Voilà.
Bien. Hein ? Moi, j'aime bien la version light.
Bah oui, je vois. Allez, je vous laisse présenter.
Allez, on présente l'émission, ouais, parce qu'on est un peu en retard. Ce soir, c'est par le biais de monsieur Yann Lévy, un vieil ami que nous suivons, que nous avons déjà invité dans le cadre d'une émission des Grignoux, parce qu'il est photographe de son état. Et je le suis sur Instagram. Et il a couvert les manifestations. Vous savez, quand même l'extrême droite s'est découverte s'est découverte des vertus qu'on insoupçonnées, c'est-à-dire que on a vu scène totalement surréaliste, comment l'extrême droite, tout ce que la fachosphère compte d'affreux, manifester contre l'antisémitisme. Bah oui, comment Dreyfus aurait vu ça, il se serait posé des questions. Bref, Yann Lévy, donc photographe de son état,
allez-y,
a couvert
annoncer
la manifestation. Lors de cette manifestation, il a pris en photo des gens du collectif Golem. C'est un collectif de juives et de juifs français. Il faut le préciser parce que maintenant... comment ces gens-là ont protesté effectivement contre la présence d'affreux faf lors de cette manifestation. Et en fait, mal leur en a pris quelque part, puisque les forces de police sont intervenues, ils ont nassé le collectif Golem pour permettre... Alors c'est assez incroyable. On a vu donc des policiers, je résume, mais des policiers, il nous en dira plus tout à l'heure, un autre invité. Nasser donc le collectif Golem pour laisser l'extrême droite manifester contre l'antisémitisme. On est chez les fous. Et grâce à Yann, on a eu le contact d'un jeune homme qui s'appelle Sender. Et Sender a accepté fort gentiment de témoigner. Il va nous parler de ce que c'est que le collectif Golem, des problèmes aussi que rencontre la communauté juive, sans doute aussi rapport à tous les actes antisémites, etc. L'occasion de parler de choses qui... Ah, c'est vraiment, véritablement des sujets, comment on pourrait dire, épineux et un peu casse-gueule. Vraiment, mais je pense qu'avec M. Sender, on aura des infos, on va dire, fiables. Voilà. C'est ça, les Grignoux, de l'info fiable.
Voilà. Je résume, grosso modo, nous retrouvons le collectif Golem, qui est un mouvement de juifs de gauche, ou un collectif, pardon, de juifs de gauche, et qui va nous parler un petit peu de ses actions. C'est un truc qui est tout neuf, tout nouveau. Je crois que ça a même pas un mois.
Et ça a défrayé la chronique. Leur action a...
En plus,
on reparlera du golem, ce symbole du golem.
Ouais, et on reparlera aussi, parce que moi, j'ai plein de questions hors politique à lui poser. Un petit dit, c'est la programmation à qui ?
À
qui,
vous, Jean-Loup.
C'est vrai ?
Oui.
Allez, un petit morceau garage. Je ne sais pas si c'est du Holdies ou du New School, mais c'est parti.
Vous ne savez plus ? Rock and roll, save my soul.
C'est la rubrique à qui? Bon Dieu, c'est la rubrique à qui? C'est la rubrique à qui, bon Dieu? C'est la rubrique à qui, mon Dieu de bordel?
Ah, mais c'est la rubrique à Roger!
Eh bien, on lui dira bonjour à votre papa, effectivement. J'aime bien, moi, quand il dit c'est la rubrique à Roger. Vous avez vu comment il l'avait torturé?
Ouais, ouais, mais sur la fin, il l'avait bien.
Bah, il l'avait bien.
Ça a duré au moins une demi-heure. Il a fallu que je le pousse un peu, hein, là, parce qu'au début.
Les claques derrière la tête, c'est vrai qu'il a pas
aimé. Ah, il a pas aimé les claques derrière la tête. Hein, bah,
pauvre
c'est
petit
comme
bonhomme,
ça.
Pauvre petit bonhomme. PISA 2022. Vous savez ce que c'est, PISA?
Le truc pour les maths.
Pizza, là, ouais. Tu manges la spécialité italienne.
Non, c'est pizza avec deux S, ouais. Là, c'est PISA. En fait, c'est le classement pour les maths, tout à fait, qui recense tous les pays qui acceptent de participer. Cette année, la Chine n'a pas voulu participer, mais ils ont dit, ouais, de toute façon, tous nos gosses étaient confinés pendant 2 ans, on va avoir des scores de merde, donc on ne participe pas. Nous, bons joueurs, on a participé et on s'est effondré, on s'est ramassé une gamelle, sauf que, j'ai lu un article qui m'a fait bien plaisir, comment écrit par Madame Michèle Artigue. Alors attention, elle est professeure des univers tissés, didacticienne des mathématiques, c'est-à-dire la didactique des mathématiques, comment on enseigne les mathématiques. Et pour cette spécialiste, les résultats PISA relèvent avant tout de l'espèce d'acharnement et de, vous savez, de la frénésie des gouvernements successifs à réformer. Elle dit en France, c'est assez incroyable, à chaque fois qu'on a une alternance politique, pouf, on a une des réformes qui vont toucher soit le primaire, soit le secondaire, etc. Et des réformes qui ne tiennent pas compte des réformes précédentes, c'est-à-dire que les réformes précédentes ne sont jamais évaluées. Et comme elle le dit très bien, pour une réforme, pour que ça marche aussi, ça a besoin de consensus. Et il faut qu'elle soit acceptée par les enseignants, les formateurs d'enseignants, qu'elle soit le fruit d'une action collective bien pensée et négociée. Or, aujourd'hui, les réformes sont imposées par le ministère et les acteurs derrière les profs, savent très bien qu'à la prochaine alternance politique, le système changera encore. Résultat pour les maths, on tourne à droite, on tourne à gauche, mais en fait, les gamins, ils ne savent plus compter.
Là, juste une petite parenthèse, regardez, en France, dans les 5 dernières années, on a eu 3 ministres de l'éducation nationale différents. On a eu Blanquer, sa super méthode, avec le Covid et tout, bref. Ensuite, on a eu Papendiaï, hein, je dis pas de bêtises, ou je prononce pas très bien son nom, et là, on a Attal. Ouais, c'est pas mal, hein, en 5 ans, chacun fait sa réforme.
Bonne ou mauvaise. Alors avant, il y avait une alternance. Là, même, on n'a même plus besoin véritablement d'attendre.
5 ans.
Là, on n'a même plus besoin d'attendre l'alternance parce que ce sont tous des ministres de l'Éducation nationale issus de la même majorité. Enfin, tiens, puisqu'on parle des résultats aussi de comment des politiques de Mme Macron, en 2017...
C'est vous qui en parlez, moi j'ai rien dit.
En 2017, un salarié sur 10 était payé au SMIC. Aujourd'hui, c'est un salarié sur 6. C'est son projet constant, tasser les rémunérations du travail vers le bas, laisser les rémunérations du capital s'envoler vers le haut. Ainsi, le niveau de vie de la moitié des Français a reculé en 2021, après la prise en compte des effets d'inflation. Une baisse plus prononcée encore pour les 20% des ménages les plus modestes, et par contre, pour les premiers de cordée, elle voit son niveau de vie régulièrement augmenter, particulièrement chez les plus aisés. Le niveau de vie au 8e décile augmente de 1,6% et celui du 9e de 1,1%. Les déciles, c'est la 10e à chaque fois. Hein, je ne vais pas vous l'expliquer.
C'est-à-dire qu'ils gagnent plus de pognon, quoi.
Déjà, non seulement c'était déjà eux qui étaient. Et il avait raison, Macron, de parler des têtes de cordée. Et c'est pas du ruissellement, je dirais, c'est plutôt de l'évaporation, puisque c'est ceux qui sont en haut qui semblent capter la fumée.
Vous êtes en train de dire qu'en France, il y a des gens qui s'enrichissent encore plus?
Encore plus, non. Et encore plus de gens qui s'appauvrissent.
Oh,
c'est son projet. Justement, je parlais de fumée. Elisabeth Borne, vous savez. Alors, moi, j'en ai... C'est un peu focus ce dont je vais parler, mais moi, j'en ai strictement rien à secouer. Elle vapote, grand bien lui fasse. En plus, je n'ai absolument aucune opposition à voir des gens vapoter dans mon environnement, même le plus proche. C'est le cas de mon camarade Jean-Loup. Non pas parce que c'est mon vieil ami, mais tout simplement...
Ça pique pas les yeux, hein, rien à dire.
Ça pique pas les yeux, il n'y a pas de fumée, il n'y a que dalle. Donc, elle vapote. Sauf que c'est un peu vrai aussi. Le vapotage est interdit, normalement, dans les lieux publics.
Normalement.
Heureusement, il y a des cafetiers sympas, des restaurateurs cool, qui effectivement, à moins que vous preniez Coke Banana Split, ça dérange pas trop les voisins. Voilà.
C'est peut-être ce qu'ils prennent.
Il y a les écolos aussi. Le vapotage aussi, hein. Et la mère Borne qui vapote, mais ça saoule Thierry Lazzaro. Thierry Lazzaro, il est maire Les Républicains de Falempine. On dit sûrement Falempin parce que c'est dans le Nord. Hein. Falampin, ça serait.
Comment on dit dans le
Nord ? Falampin. Il a pondu un arrêté amusant pour autoriser ses administrés à vapoter dans les établissements recevant des publics de la commune. Une provocation qu'il admet, mais qui témoigne aussi d'un certain ras-le-bol. Il déclare : je ne doute pas que monsieur le préfet valide mon arrêté, puisque l'exemple vient de celle qui est censée lui demander de faire respecter les règles auprès des citoyens. Et je n'imagine pas un seul instant qu'il y ait des règles que pour cette charmante dame, fin de citation. Amusant. Puisqu'on parle de politique, on continue toujours avec drogue et alcool. Alors, on a parlé de, vous vous rappelez, de ce sénateur totalement dévasté par la mort de son chat, le cancer de son vieux pote, qui a malencontreusement essayé, qui a d'ailleurs servi un verre de champagne.
Ça arrive, soyez humain,
farci d'extasie, à une nana sur laquelle il semblait kiffer un peu. Mais, alors c'est là où c'est amusant, c'est que depuis, il y a eu une réaction, notamment d'une élue Renaissance, donc la majorité, qui déclare « Caroline Janvier, députée de la majorité, estime que ce phénomène est le fruit d'un système et d'une pression inimaginable sur les députés et les ministres. La politique fabrique des comportements déviants, dit-elle. Elle a même déclaré que elle a dénoncé ces pratiques addictives. Elle a même déclaré, il y a des soirées où de la drogue circule, comme il y a des dîners ou des fins de session parlementaires où il y a une consommation excessive d'alcool. Cependant, dit-elle, il n'y a pas plus de vices à l'Assemblée nationale qu'ailleurs. Ben, j'espère, parce que déjà, qu'est-ce qu'elle nous raconte, la mère ? Elle nous dit quand même qu'il y a de la dope, il y a de l'alcool et tout, c'est chaud. Et elle nous parle même des ministres. Elle dit, mais vous ne vous rendez même pas compte que pour un ministre, c'est encore pire. Et elle déclare, les pratiques addictives existent aussi chez les ministres, mais aussi, il faut comprendre, ils ont aussi un niveau de pression inimaginable. Alors c'est heureusement pour les ministres, eux, ils ont des chauffeurs ou des chaufferices. Ce qui fait que ça leur évite, quand ils rentrent chez eux, défoncés à la coco, de se faire serrer prise de sang, monsieur le ministre. Voilà.
On va se mettre un petit disque. J'aurais juste une petite remarque tout à fait personnelle, Roger.
On peut le comprendre. C'est pas ça le problème. C'est que moi, je peux comprendre que les ministres soient soumis à une pression telle qu'ils soient obligés de prendre des substances illicites. Mais alors, pourquoi régulièrement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans les ministères, nous n'avons affaire qu'à des cubénis, voilà, qui sont là. Non, il faut être dur à l'excès de l'excès. La drogue, c'est pour personne. Moi, ça me donne un peu l'impression que la drogue, c'est pour les riches et pour les pauvres. Non, c'est interdit.
D'accord. C'est le côté faux cul, en fait, que vous dénoncez.
Bah, non, mais vous trouvez pas qu'il y a un petit côté faux cul là-dedans ?
Bon, bref, moi.
Pas de soucis avec moi. Moi, je veux pas de soucis.
Si je peux terminer ma phrase, moi, député, ministre, je mets de toutes les idées politiques à part, etc. Je sais pas ce qu'il faut. Il faut vraiment être un idéologue de la mort, être porté par ça, pourquoi pas. Il y a des très bonnes idéologies, quoi. Ou avoir un goût du pouvoir. Ils doivent mener une vie de cinglé, quand même. Mais c'est vrai qu'après, il y a le pouvoir, la domination.
Non, mais le souci, Jean-Loup, qui fait que les gens deviennent fous. Qui c'est une vie de cinglé, qui prennent des produits, ça les regarde. Mais que, oui, parallèlement à ça, de l'autre côté.
Oui, dites pas, faut pas faire, quoi.
Bah, voilà. Et surtout qu'ils pondent des lois. Mais je veux dire, à côté de ça, ils pondent des lois. Il faut quand même savoir que depuis les premières lois de 71 concernant, par exemple, la marijuana, on a eu un empilement de mesures, toutes plus répressives les unes que les autres. Résultat des courses, on est 60 ans après ces décrets, et bien, 50 ans, pardon, après ces décrets, et bien, la France est au top. Première place au hit parade des pays qui consomment le plus de produits stupéfiants.
Alors, juste rajouter que la loi de 1971, elle est très bien, il faut l'appliquer. Grosso modo, consommation, trafic et tout, 10 ans de tôle, 100 000 euros d'amende. Ben vous verrez qu'on aurait beaucoup moins de fumeurs de cannabis ou sniffeurs de cocaïne en France. Moi, je vous le dis, loi de 1971. Allez, je rigole, évidemment. Un petit disque, il me regarde, désolé. Je les vois se décomposer. Les gars, je rigolais ou j'ironisais, là. Oh,
on n'arrive pas à savoir.
C'est compliqué avec vous.
Vous ramassez une claque à la tête, ça va vous apprendre.
C'est dur de savoir.
Allez, un petit disque, la programmation qui
Attends, un petit morceau rigolo.
Ouais.
Am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stecher beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montagehalle. Die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt. Ja, dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Die Krankenschwester kriegt einen riesen Schreck. Schon wieder ist ein Kranker weg. Sie amputierten ihm sein letztes Bein und jetzt kniet er sich wieder mächtig rein. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wenn sich Opa am Sonntag auf sein Fahrrad schwingt und heimlich in die Fabrik eindringt, dann hat Oma Angst, dass er zusammenbricht, denn Opa macht heute wieder Sonderschicht. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Eh ben, très bien, très bien. Voilà, Gueg irait. Tiens, Côte d'Armor, un article, oui, rien que pour vous.
Bah, allez-y, ça dépend.
Il a peur.
Côte d'Armor, il faut mettre Côte.
Tréguier, ça vous parle ?
Oui, bah, dans le Trégor.
C'est chez vous,
ah, bah,
ça
commence... Oui, pas loin.
Psychose. Ça commence comme
ah,
ça.
Ah, j'ai entendu parler de le creveur de pneus.
Allez-y. Le creveur de pneus. Alors attendez. L'histoire. Les actes de vandalisme se sont multipliés depuis septembre dans plusieurs communes des Côtes d'Armor. Qu'est-ce mais principalement à Tréguier. D'ailleurs, je vais vous laisser la parole. Mais principalement à Tréguier, près de Saint-Brieuc, à tel point que la psychose commençait à gagner les habitants. Un homme suspecté d'avoir dégradé de nombreux véhicules, et plus particulièrement, crevé plus de 200 pneus, quand même, a finalement été interpellé mardi par la gendarmerie avec l'aide de deux passants, l'ayant surpris dans la rue. Âgé de 56 ans, il travaille au sein de la police municipale de Tréguier. Il a été placé sous contrôle judiciaire par le parquet de Saint-Brieuc jeudi dernier.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là. Et j'ai une petite anecdote aussi pour...
Non mais Tréguier, c'est pas un excès d'iode. Parce que pour sa défense, il a dit, bah oui, mais c'est parce que, comment dirais-je, les gens, ils m'aimaient pas parce que je les emmerdais.
On est peut-être dans la... Le mec a... Moi, je connais bien le Trégor.
Justement.
On ne produit pas de bière, enfin, je parle de bière globale, ni de vin, ni quoi que ce soit, mais ça consomme sec. Ils aiment bien les gens.
En plus, vous l'accusez d'être alcoolique.
Bon, il n'y a pas des kilomètres, c'est le Trégor. Mais il avait crevé même des pneus dans les bleds comme Penvénan et tout, enfin, que je connais beaucoup mieux, même si je connais bien Trier. J'y suis né, monsieur, alors qu'il n'y a plus du tout de maternité depuis Bellerette.
Ils l'ont brûlé après votre naissance.
Je sais pas.
Ça fait penser, vous savez, à la cité des enfants maudits, là.
Et ce qui est rigolo, justement, quand on parle, c'était pas la période Covid, je crois que j'en avais parlé il y a quelques temps. Bref, à Penvénan, toujours à côté de Trier, pour simplifier, il y a eu deux voitures qui sont fait crever les pneus. Et avec des tags rentre chez toi parisien, parce que vous savez il y a un nombre de parisiens
tête de chien,
ouais, c'était un peu ça, qui venaient en fait en Bretagne. Et je signale que les 80% des parisiens qui venaient en Bretagne, ils revenaient aux origines, ils revenaient dans leur famille. Comme il n'y a pas de taf forcément non plus dans le Trégor, il y en a beaucoup qui ont dû émigrer vers Paris ou d'autres régions, pas forcément Paris, pour les raisons XY. Bref, deux voitures qui se font crever les pneus avec sale chien parisien ou un truc comme ça, rentre chez toi. Et le problème, c'est qu'il y avait une des voitures où c'était un mec du coin, mais qui est né là-bas, qui a vécu là-bas, etc. etc. Et je ne sais plus ce qui s'était passé.
Ah, je crois que ce n'était pas le médecin.
La deuxième voiture, c'était le toubib. C'était une femme.
Crever les pneus du toubib, il faut être. Donc le Trégor, vous dites qu'ils sont tous alcooliques en fait.
Non, et tout ça. Parce qu'elle devait être immatriculée en 75 et 75 de département. Et elle expliquait, ouais, mais je l'ai acheté il y a un mois.
Ben oui, et ils savent quand même que maintenant, il n'y a plus d'indication, on n'est pas obligé de changer la plaque.
C'est là où on touche le délire le plus con. Et là, je parle de petit blanc, hein, je ne parle pas de cité, de bande, etc. Mais bon, où la connerie touche à connerie. Quoi, là.
Alors, est-ce que vous nous conseillez d'y passer nos vacances ?
À l'été, oui.
L'été, c'est mieux.
À l'été, c'est bien.
L'été, c'est
moi,
bien.
Je dirais, allez, début juin, fin septembre. Après,
okay.
Après ça dépend si vous, êtes, si vous avez une envie suicidaire. Enfin, je parle pour moi, il y en a qui adorent, quoi. Mais c'est triste, hein, l'hiver. Putain, c'est triste. Même quand on habite à côté de la mer, la mer est grise, il y a
c'est
du
clair,
vent.
C'est clair.
Acheter du pain, il faut faire 10 km. Allez, 10 km retour. Vous savez, la baguette que vous avez achetée, bah, quand vous revenez, elle est toute molle à cause de l'humidité. Enfin bon, c'est horrible l'hiver.
Allez, tiens, toujours dans le Caucase, guerre en Ukraine, un 7e général russe, officiellement, parce que selon certaines sources, sûrement mal embouché vis-à-vis des Russes, il y en aurait beaucoup plus. En tout cas, un 7e général russe vient d'être tué dans l'explosion d'une mine russe.
Ouais.
En fait, il s'est baladé assez à l'arrière des lignes, dans un terrain qu'il pensait être tranquillou, et en fait, des unités russes avaient déposé des mines pour faire une surprise aux commandos, parce qu'il paraît que les Ukrainiens, ils aiment bien envoyer des commandos qui foutent la merde et tout dans leur ligne, parce qu'ils sont un peu sur la défensive dans certaines zones.
Ouais.
Donc on fout des champs de mines un peu partout, comme ça les Ukrainiens ils sautent là-dessus. Sauf que là, eh ben c'est le général qui est sauté, il s'appelait Vladimir Zavalsky, on vient lui décerner le titre de héros de la nation,
bah ouais,
ça lui fait sûrement une belle jambe.
Tant qu'à faire.
Et ils en sont quand même, je ne sais plus. J'ai coupé l'article, mais ils en ont perdu pas mal.
En nombre total de morts ou
de généraux.
À qui sont morts ?
Ouais, russes, ouais.
Ouais, mais vous savez, en Russie, on est général, clac, hop, on claque des doigts, là.
Ouais, comme chez Tintin.
Un peu, ouais.
Paris de plus vite, plus haut, plus fort. Vous rappelez de la promesse, sans doute, de Thierry Estanguet concernant le pass Navigo et surtout les moyens de se déplacer à Paris pour aller voir les épreuves des fameux JO de 2024. On nous avait promis les transports gratuits. En fait, non. Non seulement les transports ne sont pas gratuits, mais le prix du ticket de métro va quasiment doubler pendant les Jeux. Le forfait hebdomadaire passera à 70 euros. Plus vite, plus haut, plus fort, effectivement. Des Jeux Olympiques qui tiennent leurs promesses, puisqu'on vient déjà... C'est une hausse de le double.
Bah.
Le double, 50% d'augmentation pour le pass Navigo. Alors, le problème, c'est que le Parisien malin ou la Parisienne maline, elle reprend son passe Navigo, comme elle a le vieux passe, ça marche. Ça, c'est fait pour baisser la gueule et tout ringouin. Sauf que, si par malheur, même tout Parisien que vous êtes, ou Parisienne, vous oubliez de racheter votre carte avant le 20 juillet, eh ben, vous l'avez dans le cul, Lulu.
Alors, si je peux juste nuancer sur les Jeux Olympiques, vous avez parfaitement raison dans ce que vous dites. Moi, ce qui me fait chier, c'est les Jeux Olympiques. Et, enfin, vous voyez, moi, je suis plus dans la symbolique, quoi. Les Jeux Olympiques, c'est quelque chose.
Ah non, mais je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus.
C'est ça qui est dommage.
Non, mais moi, je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu.
Le prix des places qui sont. Enfin, moi,
que ça ne ressemble plus à rien.
Censément les amateurs. Bon, en nuance, hein, tout le monde est loin d'être amateur dans les Jeux Olympiques. Bref, c'est dommage. Moi, je suis resté esprit Olympe.
Enfin, Pierre de Coubertin n'était pas clair. C'était un grand ami d'Hitler aussi.
Et on conclut,
parce qu'il faut bien conclure, parce qu'il est temps de passer à notre invité.
Sander.
Avec une manifestation qui s'est tenue à Toulouse. Ça change. D'habitude, c'est à Morlaix. Vous savez, quand on essaye d'aller de Saint-Brieuc à Brest, on ne peut pas parce que. le viaduc de Morlaix, il est régulièrement coupé avec manifestations, etc. Et là, c'est à Toulouse, bitume brûlé, tonnes de fumier déversées. Les manifestations ont causé des centaines de milliers d'euros de dégâts. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas encore effectivement, après cette manif du 22 novembre, combien ça va coûter. Une manifestation organisée par les jeunes agriculteurs. Il n'y a rien de jeune parce que j'ai toujours connu faire ça. Et de la même manière, comme la semaine dernière, une poignée d'agriculteurs ont bloqué la RN12, vidé les camions dont le contenu n'était pas produit sur place, c'est-à-dire, ça c'est du poulet afghan.
C'est pas clair, ouais.
À la poubelle. Sauf qu'il y a quand même, ils l'ont donné à des gens, il y a des gens sur la route.
Ça c'est bien,
ouais, bien.
Inquitable.
Sauf que, pas une seule interpellation, pas une seule poursuite apparemment lancée. Que n'aurait-on dit si, à la place des agriculteurs en colère, on aurait eu une poignée de chevenus vaguement écolos qui auraient dit « oui, il y en a marre de manger de la bidoche, on va acheter toute la bidoche dans les champs ». Qu'est-ce qui leur serait arrivé ? Je pense que, quelque part, je me demande, alors c'est la supposition, hein, est-ce que les réactions des forces de l'ordre auraient été les mêmes ?
Mais
question.
Vous êtes d'une mauvaise foi incroyable. Vous avez... Très bien que quand les agriculteurs manifestent, que ce soit sur la Rennes 12, Rennes, Morlaix, bidule, truc, muche, machin, il n'y a aucune arrestation. Les flics, ils se rendent compte, merde, numéro de tracteur, ah, qui a un crayon ? Personne n'a un crayon. C'est dommage, hein, donc ils ne peuvent pas interpeller. Malheureusement, enfin, ce qu'on peut appeler déjà crier, justifier ou pas justifier, je ne sais pas, il n'y a rien qui se passe. Et comme vous dites, bon, bah, il suffit d'être, je ne sais pas moi, je suis un peu d'extrême droite, hein, vous voyez, je vais bien le drapeau français.
Bah, on est-ce qu'il blague là ?
On me dissout.
On ne sait plus. On me dissout. Allez, on termine avec, vous savez, Dupond-Moretti. Putain, on allait voir ce qu'on allait voir. La Cour de justice de la République allait enfin rendre une justice conforme, je dirais, au moins à l'esprit de la loi, et arrêterait d'être une justice entre copains. Et comme je vous avais dit déjà il y a 15 jours, ironie du sort, Macron, il voulait supprimer la Cour de justice de la République. Et heureusement qu'il ne l'a pas fait, parce que ça lui a bien rendu service. Puisque Dupond-Moretti, si le juge a bien reconnu effectivement le conflit d'intérêts, hein, entre le fait de la part d'un ministre de régler ses comptes avec des juges avec qui il avait eu affaire en tant qu'avocat, il n'y avait pas intention. En clair, Jean-Loup, quand vous rentrerez de chez moi avec 4 grammes dans chaque poche parce que vous avez trop abusé de la limonade,
ça m'étonnerait.
Vous êtes sous. Mais vous n'aviez pas intention
de me saouler, oui.
Voilà. C'est ce qu'il faudra dire à la police.
C'est ce que. Dire la vérité, quoi, c'est ça.
Ouais, vous n'aviez pas
non.
La.
Oh, je mentirais.
C'est Roger, vous pourriez dire c'est Roger, il m'a forcé à boire.
J'ai voulu me suicider tout
voilà,
seul, tiens,
voilà, voilà, voilà. Vous n'aviez pas l'intention de la faire. Alors, il y a beaucoup d'internautes, il paraît qu'ils ont comparé Dupond-Moretti à Virenque, à l'insu de son plein gré.
Vous n'aimez pas Acquittator ? Je parle de sa vie précédente.
Acquittator, il mérite bien son titre, puisqu'il s'auto-acquitte avec une cour de justice.
Là, je parle de l'avocat. Je parle
alors, la
pas
Cour
du,
de justice, c'est un truc un peu spécial qui avait été créé pour,
gueule, enfin,
pour,
assez,
juger les, pour juger les politiques. Le problème, c'est que dans le jury, il y a au moins la moitié de politiques. Et effectivement, ben, ça devient... On serait tenté de
est-ce
dire...
que la justice a dit qu'il n'était pas coupable ?
Ça dépend de quelle justice.
Ah, là, bah,
on ne parle pas de la justice en comparution immédiate lorsque vous paraissez au petit matin après avoir fait du con la veille et que vous prenez un maximum. Non, là, c'est la Cour de justice de la République. Et jusqu'à présent, la Cour de justice de la République n'a jamais condamné qui que ce soit à une peine véritablement marquante. Voilà. Et tant mieux pour Dupond-Moretti. Tant mieux pour les. Et tant mieux pour les agriculteurs, puisque à peine sorti de l'affaire de son procès, eh bien, il vient au secours des agriculteurs face aux néo-ruraux qui ne supportent pas les bruits ni les odeurs. Alors, les bruits et les odeurs, ça fait penser à l'expression de Chirac. Là, vous rappelez un jour qu'il avait un peu bu. Mais le bruit et les odeurs, ça veut dire qu'en clair, l'odeur d'ammoniac dans laquelle on baigne en Bretagne, monsieur Dupond-Moretti, on baigne dans l'odeur de pisse de cochon, monsieur le ministre de la Justice. Il va falloir dire que désormais, eh bien, on ne peut plus rien dire parce que, en fait, la loi va dire que est-ce que ça peut avant que vous arriviez ? Vous allez dire, oui, mais j'espérais que ça s'arrange. Eh bien, ça peut avant que vous arriviez. Eh bien, ça pourra toujours, point barre.
Ouais, mais les coqs, il faut pas les connaître. Des fois, ils démarrent à 5 heures du matin.
Non, non, mais non, là,
ah non,
effectivement,
bah, attendez, là...
s'il y a pu avoir peut-être quelques excès. Bon, il y a un excès qui m'a rendu dingo. Des connards qui ont fait boucher la mare au canard d'une petite bonne femme qui avait une petite ferme parce que le bruit des crapauds en rute les empêchait de dormir. Non, là, faut pas déconner. Mais là, moi, je parle de problèmes autrement graves qui vont se faufiler derrière, à savoir l'agro-industrie qui va rebondir là-dessus. Quand on se plaindra des taux d'ammoniac dans l'air, on ne pourra plus rien dire. Ben, ça puait déjà comme ça avant, ça puera toujours. Voilà.
Ah non, mais c'est dit, hein. Oh là là.
On s'écoute deux petits dix, c'est ouais. Tout, voilà.
Et après, on va parler bah, justement au collectif Golem avec Sander, qui va nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, parce qu'il y a plein de questions, et moi je me pose plein de questions par rapport à leur mouvement, à leur collectif, pardon. Puis aussi, bah, c'est vrai, je connais pas forcément le monde juif globalement, je connais la religion, l'histoire, il n'y a aucun souci là-dessus. Quoi.
C'est vrai, j'ai aucun souci, on voudrait peut-être une petite interro. Un petit interro à la fin de l'heure.
Ah, si vous voulez, l'Abraham, patati, les dix commandements, oh là, je connais tout par cœur. Bref, par contre, je ne sais pas ce que c'est. The way I walk is just the way I walk. The way I talk is just the way I talk. The way I smile is just the way I smile. Touch me, baby, and I go home wild. The way I love is just the way I love. Come on and be my little turtle dove. Touch me, baby, it feels so good. I feel as though I wanna, then I don't know if I should. Do you, 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 do me got to suit my style. Oh, little baby, I will say goodbye. Love me, baby, love me right. Love me morning, noon, and night. Do you, 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 yeah.
keep it going strong.
De dorénavant, toutes les connaissances disponibles sont à votre disposition. En effet, les Grignoux sont spécialistes de tout. Diplômé des arts et des lettres, docteur en sciences particulières et générales, prix Nobel 90 de mathématiques, maître en histoire géo, spécialiste de l'univers, licencié S paranormal, voici les Grignoux dans... Et du con.
J'aime bien le... Ah, voilà, là ça marche. J'aime bien le... Comment...
Générique.
Le générique. C'est un vieux générique qu'on remerciera jamais assez, Paco, pour ces vieux génériques inusables. Et oui, ce soir, alors je le rappelle, hein, je suis obligé de tout recommencer, mon pauvre Jean-Loup, mais vous savez, il y a toujours des gougnafiers ou des gougnafières.
Du moment que Tom vous coupe pas.
Ah
bon, il serait capable.
Et donc, ce soir, nous recevons Monsieur Sender. Bonsoir. Allô. Oh là, on n'a rien. Allô, vous nous entendez?
Ouais, moi je vous entends.
Ouais, yes, nous aussi. Monsieur Sender, dont j'ai eu le contact grâce à Yann, un vieil ami que nous avons reçu, photographe de son état, et qui a couvert la manifestation qui a eu lieu, donc pas ce week-end, le week-end avant, ou le week-end encore avant, je ne sais plus. Une grande manifestation initiée par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, une grande marche contre l'antisémitisme. Déjà à l'époque, ça nous avait paru un peu bizarre, on eût préféré, nous, chez les Grignoux, une marche, mais on est des vieux babas, nous, hein, genre 83 contre tous les racismes, et effectivement, la présence du Front National aurait été peut-être un peu plus compliquée. Et c'est justement contre cette présence dite du Front National qui s'est permis de marcher contre le Front National, qu'on sait quand même, on le rappelle pour ceux qui auraient oublié, que c'est quand même un parti qui a été fondé par un ancien Waffen-SS, etc., des gens qui n'ont jamais craché sur la torture, etc., donc des affreux, toute une bande d'affreux, qui ont revendiqué le droit de se montrer antisémite et de s'afficher à cette manifestation, d'où la réponse d'un collectif, le collectif Golem, auquel vous appartenez, c'est bien ça ?
Oui.
Voilà.
Il n'y a plus rien à dire, le pauvre.
Non, mais attendez, je termine, parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas écouté le début.
Vous et je termine. Pas, Roger,
donc, le collectif Golem qui s'est interposé, justement, durant cette manifestation, à Paris en tout cas, pour protester contre le Front National.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et donc maintenant, justement, vous allez pouvoir un petit peu nous expliquer c'est quoi ce collectif Golem.
Alors, le collectif Golem, c'est un collectif déjà qui est très jeune, vu que c'est un collectif qui techniquement existe depuis quelques jours avant le 12 novembre. Moi, je peux dire personnellement que j'en fais partie depuis le vendredi avant le 12 novembre, donc le 10. Et en fait, c'est un collectif qui a rassemblé du coup spontanément différentes personnes en réalité qui viennent d'horizons politiques assez différents tout en restant à gauche et qui viennent de différentes organisations mais il y avait un lieu commun à ce moment-là qui était de dire on a envie de marcher contre l'antisémitisme mais surtout on ne supporte pas de voir le Rassemblement National marcher.
Voilà.
Pour l'antisémitisme, ça nous fait... Et donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Et à partir de là, voilà, on s'est formé, le groupe a grossi au fur et à mesure un petit peu. Et puis voilà, il y a une équipe qui s'est formée à ce moment-là. Quoi.
D'accord.
J'ai une question idiote, et je pense qu'elle n'est pas idiote à vous poser. C'est quoi un golem, au juste ?
Ah, alors, c'est intéressant. Le golem, c'est une figure de la mythologie juive. Qui est très souvent associé, la plupart du temps d'ailleurs, à un rabbin de Prague dans le XVIe siècle, qui en fait aurait construit un golem sur le front duquel il aurait noté le mot vérité, qui se dit Emet en hébreu, enfin qui s'écrit Emet surtout, et en fait en lui gravant ce mot sur la tête, le golem devient vivant et protège la population juive contre les attaques anti-juives de cette époque-là. Donc c'est une figure qui, on va dire, invoque une symbolique qui est celle de la protection, mais aussi celle
de la colère aussi.
De la colère, en fait, d'une menace, sans vouloir trop en faire, mais je veux dire quand même, en fait, l'antisémitisme, c'est une menace, j'en sais pas forcément trop. mais voilà, il y a cette idée vraiment de réveil, en fait, d'un peut-être pas forcément tellement le golem, ça, mais d'un ras-le-bol, en fait, général, et d'un sursaut.
Et c'est marrant parce que pour la petite histoire, on sait que, enfin, j'ai appris par la suite que cette image là du golem, du défenseur de la communauté juive, avait été repris par Jack Kirby dans les Quatre Fantastiques, série de science-fiction dans les petits pulps américains, parce que lui-même était de confession juive.
Oui.
La chose, cette fameuse chose.
Oui, c'est ça. Ouais, la chose, d'ailleurs, pour l'anecdote, on le voit, des moments donnés dans le comics, se marier avec la kippa et tout.
C'est vous qui me l'avez appris, ça, c'est rigolo, ça. Et donc, le golem, effectivement, donc, l'emblème de cette colère. Et c'est quand même quelque chose qui a marqué les esprits, parce que comment ça s'est passé, cette manif? Vous êtes retrouvé nassé pour laisser passer le Front National, en fait.
Oui, voilà.
Alors racontez-nous un peu.
En plus touffu. On s'est retrouvé. L'objectif, c'était de montrer, en tout cas d'essayer, à défaut de réussir, de montrer qu'il y a des gens qui s'opposent au fait que le Rassemblement National puisse marcher dans une marche contre l'antisémitisme. Donc on a fait la banderole et puis on a organisé cette idée de cordon pour bloquer le cortège. La police est intervenue. La police est déjà intervenue au départ pour nous expliquer que elle nous avait vus, et du coup il y a un agent de police qui est venu nous voir pour nous expliquer que si on avait des pancartes avec écrit RN antisémite dessus, ils allaient devoir nous enlever. Donc ça, c'était un mot d'ordre qui était interdit à la manif a priori. Et en fait, voilà, quand on a fait notre action, la police nous a d'abord quelque peu bousculé, puis nassé, et en fait nous a déplacé en fait sur le côté de la manif pour laisser le cortège du RN passer et nous conserver sur le côté. Et quitte à qu'on réintègre la manif, mais à la fin, loin du cortège du RN.
Ouais, donc du coup, moi je résumais peut-être un peu mal les choses, mais pour finir, on vous a bloqué pour laisser l'extrême droite manifester contre l'antisémitisme, pour résumer.
Oui, c'est tout à fait vrai.
C'est complètement surréaliste, cette affaire-là.
Oui.
Je vais faire les méchants. C'était pas le but de la manif non plus, même s'il y avait une certaine dose. Enfin, là, je suis dans l'ironie. Une sacrée dose. Et là, je suis moins dans l'ironie.
Alors, vous faites bien de le préciser, parce que si vous variez les tons.
Vous voyez. Bon, bref. Par rapport au Front National, bon, qui était, quoi. Mais le but du jeu, c'était de faire une manif antisémite. Et
pas antisémite contre l'antisémitisme.
Contre, évidemment.
Vous savez, c'est un sujet compliqué.
C'est vrai que les mots ont un sens. Et Roger sait très bien que je suis très subtil sur les mots en général, quoi. Contre l'antisémitisme, et pas contre le racisme, parce que je ne sais pas si on peut parler de manière générale, mais après l'histoire du 7 octobre, en France, ça c'est un truc que je ne comprends pas, beaucoup de juifs ont un peu morflé d'une forme d'antisémitisme. Je ne dis pas le racisme, que racisme ça englobe plein de couleurs.
C'est du racisme quand même.
C'est une forme de racisme, mais dans la famille des racistes, il y a l'antisémitisme. Et je ne pensais pas que ça allait faire autant de mal, en fait, quelque part. Alors, j'ai une question toute bête, parce que je pense que vous êtes juif. Comment on peut expliquer ça, en fait, cet antisémitisme qui sévit encore en France? Je suis très naïf en vous la posant, bien sûr.
Non, mais c'est une très bonne question. Moi, ça m'intéresse. Enfin, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, sur lesquels je milite et je travaille depuis un moment. Et c'est des questions desquelles on s'empare avec le collectif Golem, notamment, mais avec le collectif JJR, Juif Révolutionnaire, dont je fais partie depuis plus longtemps. En fait, déjà, de un, l'antisémitisme, bien qu'il y ait une reviviscence aujourd'hui, depuis 7 octobre, de manière beaucoup plus décomplexée, c'est pas forcément quelque chose qui a disparu non plus.
Malgré la Shoah.
Malgré la Shoah, malgré l'épuration, voilà, il y a quand même assez de documentation historique pour savoir que il n'y a pas vraiment une rupture nette entre 1944 et 1946. En réalité, les choses sont plus poreuses que ça, et notamment déjà au niveau des gens et en fait au niveau des personnes. C'est pas forcément, il n'y a pas eu une épuration totale de tout antisémite, et puis de toute façon ça n'aurait pas de sens. Mais par contre, c'était une idéologie quand même qui est passée de être quasiment majoritaire en fait en Europe, presque hégémonique aussi en Europe en fait, antisémitisme, à bon bah on n'en parle plus. Évidemment qu'il en reste. Il y a une partie de la culture qui est construite, enfin, il y a une partie de la culture qui se construit sur des legs. Très anciens en fait qu'on a en Europe, qui sont le racisme, qui sont l'antisémitisme, qui sont le sexisme, et donc en fait il y a un défaut de la question de poser l'antisémitisme, c'est un racisme, mais en même temps on a souvent tendance à en parler de manière spécifique, c'est parce que l'antisémitisme c'est un racisme spécifique. Donc par exemple quand on demande à mais comment ça se fait d'ailleurs que depuis le 7 octobre il y a une résurgence ou une reviviscence ou une explosion des actes antisémites. Il faut savoir déjà aussi que l'antisémitisme, comme il fonctionne, on a pu le constater notamment depuis les 20-30 dernières années, c'est que un acte antisémite en appelle d'autres.
Un effet de mode.
Ça fonctionne généralement comme ça. Ouais, je sais pas si on pourrait dire un effet de mode, mais c'est plus ou moins ce principe-là. C'est-à-dire que un bon exemple, c'est 2012, l'attentat perfpétré par Mohamed Merah à l'école juive d'Ozara Toulouse.
Ah oui, Toulouse.
À Toulouse. Dans la semaine, en fait, qui a suivi l'attentat, il y a eu une hausse des actes antisémites.
Alors, il y a une question.
C'est une forme de tabou, peut-être, qui, à des moments donnés, en fait, se déverrouille et donne une forme d'impunité ou de laisser-aller, en fait, beaucoup plus ostentatoire et beaucoup plus décomplexé que ça pourrait l'être de base.
Mais il y a une question, il y a aussi un phénomène qui a peut-être aussi rajouté une couche, parce que avant l'antisémitisme de base, il était de la part des catholiques et des chrétiens envers les juifs. Oui. Et après la création de l'État d'Israël, comment cet antisémitisme s'est répandu dans le monde musulman avec du fait de la création de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, il devient très compliqué, par exemple pour des gens lambda comme Jean-Loup et moi, par exemple, ou Tom qui dort derrière le
séminaire. Oui, il est en pleine sieste.
Ok. De parler, par exemple, on ne peut plus critiquer la politique sioniste, de Netanyahou. Sous peine de passer aussitôt par un antisémite. Ça devient compliqué.
Ah oui, c'est sûr. Mais après, moi, ce que j'essaye de dire, enfin, je dis moi parce que moi, je suis personnellement là, mais je veux dire, je pense que c'est quelque chose que je partage avec quand même pas mal de mes camarades, c'est que, en fait, bien sûr qu'il ne faut pas tomber dans un écueil malhonnête, enfin, en premier lieu, très malhonnête, de considérer que toute critique du gouvernement israélien, de sa politique menée, est antisémite.
À ce moment-là, si on critique Macron, on est, que je veux bien croire que je sois anti-macroniste, mais je suis pas anti-chrétien, si lui est chrétien, je veux dire.
Non, c'est sûr. Par contre, en fait, c'est là où ça devient compliqué, c'est que l'antisémitisme existe, et qu'en fait, l'antisémitisme peut, à des moments donnés, s'exprimer dans le jargon, le cadre, on va dire, de la critique du sionisme ou de la critique d'Israël. Moi, j'aime bien illustrer en fait ce propos par une phrase qui peut-être elle est un peu bancale, mais je pense que ça illustre bien les choses. C'est qu'il y a une différence entre la critique d'Israël et la haine d'Israël.
Oui, c'est ça. On est d'accord.
Ils sont pas forcément pareils. Mais sauf que il y a plein de facteurs différents. On pourra y revenir. Mais il y en a plein qui me viennent en tête de facteurs qui ont fait que aujourd'hui s'est installé en fait un flou autour des termes qu'on emploie et de la signification de ces termes, de ce que ces termes veulent dire, sur une acceptation collective, en considérant ce que vivent les personnes juives, puisqu'elles sont quand même... Les termes comme sioniste, par exemple, les personnes juives sont directement affectées par les effets que peuvent avoir ces termes, que ce soit des effets de pas d'effet du tout, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent des termes sionistes et qui n'ont rien d'antisémite dedans. mais il y en a où il y a où y, ça y est.
Mmh.
Et en fait,
ça peut être une couverture en fait, ça peut être une couverture.
Mais c'est, en fait, ça l'est à des moments donnés.
Mmh.
Ça l'est. Après, faut justement pas tomber dans le piège malhonnête de se dire tout l'est, parce que c'est pas vrai. Mais il faut savoir identifier ce qui l'est et ce qui ne l'est pas. Et ça, il y a un défaut, je pense, aujourd'hui. Soit il y a un défaut, soit il y a une volonté de ne pas le prendre en compte. Et dans ce cas-là, ça illustre peut-être d'autres biais antisémites, puisqu'il n'y a pas que ça non plus.
Alors, avant qu'on se mette un petit disque, juste deux questions pour les gens qui nous écoutent, pour l'auditeur. Antisémites, c'est les gens qui n'élèvent pas les juifs, enfin, on va dire les juifs dans le sens religieux du terme, c'est bien cela.
Alors, pas exactement. Enfin, non, c'est pas ça.
Ah bah, allez-y, justement.
Mais justement, je voulais revenir sur ce que vous aviez dit, et ça va faire une très bonne transition avec ce que vous demandez, sur cette idée, voilà, l'antisémitisme historiquement, c'est des chrétiens, et comment expliquer maintenant, je crois que vous aviez dit, depuis la création de l'État d'Israël, il y a un antisémitisme qui s'est développé, etc., chez les pays, on va dire, les pays arabes. Bah, ça, c'est pas vraiment vrai non plus. C'est-à-dire que l'antisémitisme, en fait, déjà, c'est un terme historique. C'est un terme qui existe au 19e siècle, qui est trouvé par un journaliste allemand, qui se définit lui-même comme antisémite. Et en fait, l'antisémitisme est un terme qui est développé par les antisémites pour se définir et pour mettre des étiquettes sur leurs organisations politiques. C'est-à-dire que c'est un terme valorisant à cette époque-là, dans le 19e. Pourquoi antisémite et pas anti-juif? C'est parce que le 19e, avec ses modes et ses
Vous trouvez des termes plus subtils pour dire la même chose, quoi.
De quoi, c'est-à-dire ?
Bah, antisémitisme, c'est quoi
vous remarquez sur le M ?
C'est du racialisme du 19e siècle. C'est-à-dire que ça paraissait un peu démodé de dire les juifs en forme de. Enfin, comme une religion.
Donc, c'est la culture.
On est dans la science et dans la réflexion, etc. Machin. Enfin, la réflexion nulle. C'est-à-dire, on est dans l'eugénisme, on est dans le racialisme, le darwinisme social. Et dans la sémantique qui existe à cette époque-là, on a décidé de racialiser les juifs pour faire évoluer, en gros, selon les mœurs de l'époque, ce sentiment qui est celui qui est présent à la fois dans l'antisémitisme, à la fois dans la haine des juifs comme religion, si on parle du Moyen-Âge, etc., et à la fois comme dans certaines critiques, on va dire, certaines paroles qui veulent s'ancrer dans une critique d'Israël, mais qui, des fois, dérapent ou sont de mauvaises intentions, vont reproduire ce cesse de même pensée d'essence que les juifs contrôlent le monde et qu'ils sont un danger pour l'émancipation des autres.
Ça me rappelle à la conspiration des sages de Sion.
On va en parler après. Et deuxième terme, parce que j'aimerais bien qu'on parle justement de cette fameuse dite conspiration. Bref, et le sionisme ou l'antisionisme, à contrario, c'est quoi en fait?
Alors, c'est pareil, ça c'est des discussions, je pense qu'il faut avoir dans les différentes sphères politiques.
Vous avez 30 secondes, allez-y.
Ouais, parce que là, voilà.
Bah, en vrai, moi je peux vous donner les définitions que moi j'estime être, que j'estime être recevables. C'est-à-dire que le sionisme, déjà de un, c'est une idéologie qui en englobe beaucoup. C'est-à-dire que c'est une idéologie dans laquelle il y a un spectre politique en entier. Mais si on veut résumer le sionisme, c'est une réaction face à l'antisémitisme, notamment des juifs d'Europe, enfin principalement des juifs d'Europe, de certains juifs d'Europe, qui se sont dit la solution à l'antisémitisme, c'est de migrer et de partir vivre sur un territoire.
Théodore Herzl.
Oui, Théodore Herzl, c'est le sionisme politique. D'ailleurs, le sionisme précède Théodore Herzl, mais plutôt dans des mouvances religieuses ou alors dans des mouvances purement communistes. Les premiers kibboutzim, c'est quelque chose, c'est un mouvement très pluriel. Les antisionistes, il en existe avant la création d'Israël, notamment.
Même au sein des juifs, d'ailleurs.
Principalement. Oui, on parle beaucoup du Bund, par exemple. Mais l'antisionisme juif, notamment d'Europe, avant la Shoah, avant la Seconde Guerre mondiale, c'est principalement une opposition de stratégie. En plus de l'observation de dire, c'est vraiment. Il y a bien peut-être un peuple sans terre, mais c'est pas une terre sans peuple, donc ça va risquer d'être un peu compliqué votre histoire. Mais la principale critique, c'était de dire, en fait, c'est pas la solution à l'antisémitisme. La solution à l'antisémitisme, c'est la révolution sociale des prolétaires. Donc c'était une autre lecture, on va dire, de la société. Et en fait, tout ça à cette époque-là, il faut regarder aussi l'histoire des mouvements juifs révolutionnaires qui englobent en fait des mouvements sionistes, des mouvements antisionistes, bundistes. etc., etc. Il y en avait quand même beaucoup. Pour comprendre aussi la richesse et la multiplicité des choses qui existaient à cette époque-là. Donc aujourd'hui, on en parle maintenant en disant le sionisme. Benjamin Netanyahu, à aucun moment donné, ne représente le sionisme. Et en fait, le gouvernement israélien ne représente pas forcément le sionisme non plus. À la limite, le sionisme, c'est représenté par le fait qu'il y a un État qui existe et qui s'appelle Israël.
C'est-à-dire que le sionisme de Ben-Gourion n'a rien à voir avec ce que pourrait prétendre Netanyahou, c'est ça pour résumer?
Ah non, oui, c'est ça. Enfin, oui, bien sûr, je veux dire, Ben-Gourion a ses torts aussi, je veux dire, là on parle de politiciens et on peut faire des critiques sur n'importe quelle politique, mais Ben-Gourion n'a rien à voir avec Netanyahou. Enfin, Netanyahou, pour le situer par ailleurs dans le sionisme, c'est lui-même situé en fait dans la branche qu'on va appeler la branche de Jabotinsky, le sionisme dit révisionniste, puisqu'il n'était pas d'accord avec le premier congrès sioniste. Enfin bref, ça c'est des trucs d'historien. Mais lui, en fait, c'est déjà, il s'ancre de base dans une idéologie qui se revendique plus ou moins de l'extrême droite du sionisme.
Donc, voilà. Alors, c'est marrant parce
pas
que
de base très socialiste ou. C'est vraiment l'extrême droite, quoi.
Alors, je vais vous couper parce que je vois, mais il y a mes potes, ils ressemblent à des moulins. Vous savez, ils sont en train de faire des grands gestes avec leurs bras. Ils disent, on comprend plus rien. Il faut qu'on écoute un X pour se réchauffer pour se refroidir les neurones parce que là, ils sont en train d'exploser. Par contre, j'aimerais bien, par contre, qu'on rebondisse sur votre dernier concept, justement, parce que bon, il y a un truc que j'ai jamais compris. La part d'un peuple victime de la Shoah, l'extrême droite. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
On en parle.
Allez,
après le petit X.
Petit X, c'est parti. This time you hurt me, you really did it. This time you did. Did you count your fingers after shaking my hand? God forbid. Riff raff, crawling from the slums. Chums, I swear by the pricking of my thumb, I'll make your day and melt away. I'll crawl back under my stone, I'll crawl back under my stone, I'll crawl back under my stone. But you won't have to stand next to me, you won't have to introduce me, you won't have to think about, talk about, care about me. I've got a nerve just showing my face, don't you think? Scoffing at the likes of to know their place, don't you think? Oh boy, sorry to intrude. Damn shame, plenty bloody rude. I should be host with them soon. Tail between my knees, I crawl back under my stone, I'll crawl back under my stone, I'll crawl back under my stone. But you won't have to stand next to me, you won't have to introduce me, you won't have to think about, talk about, care about me. I crawl back. You had a tall record, you did. You guessed my game and my name like a number, you did. Somehow I gave myself away. Some cut, some wood I didn't say. I missed one line in the play. And the trap shut tight. And you did. Just me.
Et bien voilà, vous êtes toujours et vous avez de la chance sur l'antenne des Grilloux, même si l'antenne de Canal B pend tristement comme une quéquette de notaire après les agressions des tempêtes successives. Eh bien, nous sommes toujours avec Sender du collectif Golem. Je résume plus, vous aviez qu'à devenir plus tôt, comme ça vous sauriez ce que c'est que le collectif Golem. Et nous abordions un peu les problèmes de politique intérieure, dans l'État d'Israël. Moi, il y a un truc que je n'ai jamais compris, ce sont comment des mouvements qui s'affirment officiellement comme étant d'extrême droite, c'est-à-dire foncièrement raciste vis-à-vis de la population palestinienne, peuvent rencontrer un certain écho au point de, avec une coalition faite de bric et de broc et d'incapables notoires, on voit bien le résultat avec les attentats du 7-10, c'est quoi le concept d'extrême droite? Comment on peut être d'extrême droite après la Shoah? Je comprends pas.
Bonne question, apparemment.
J'en sais pas si c'est une bonne question, mais pas, en fait, moi, ça me trouve le cul.
Moi, j'aurais envie de répondre. En fait, les Juifs sont pas un groupe vraiment homogène et coercitif en réalité.
C'est vrai.
Donc,
Attention, fait qu'il y ait de l'extrême droite,
je me permettrais de dire qu'il y a des gens qui comprennent rien, qu'ils soient juifs ou qu'ils ne le soient pas.
Mais comment ces gens peuvent recevoir un certain écho auprès de la population pour être élus quand même?
Et comment... Ah, mais après ça, on parle du système politique israélien, et ça c'est quelque chose. Alors qu'on dise que la société israélienne s'est radicalisée au fur et à mesure du temps, etc. Écoutez, moi je suis pas, je me considère pas en tout cas assez bien informé, on va dire, pour vraiment vous parler de la sociologie de la société israélienne. Mais ce que je peux dire, par exemple, c'est qu'il ne faut pas forcément tout comparer tout le temps, par exemple, à la France, puisque le régime politique sont fondamentalement différents. En Israël, c'est la proportionnelle, parce qu'il y a une démographie qui est différente aussi. Donc, du coup, ça force des coalitions au gouvernement. Et Benjamin Netanyahu, en réalité, si je peux me permettre un avis personnel, à tous les coups, sa coalition d'extrême droite, il l'a moins fait parce qu'il est d'extrême droite que parce qu'il sait très bien que quand il n'est plus Premier ministre, il est en prison. Et du coup, il veut rester au pouvoir le plus longtemps possible. Mais là, on est en train de parler de politique en soi. C'est-à-dire que moi, je pense pas que je pense pas qu'il y ait une corrélation spécifiquement entre le fait d'être juif ou pas et d'extrême droite ou pas. Je pense que des personnes juives peuvent tout à fait être racistes au même titre que n'importe quelle autre personne peut être n'importe quelle autre chose. Enfin.
Alors le souci, c'est que
à l'extrême droite chez les personnes juives, tout comme chez n'importe quel autre groupe, on va dire aux minorités quoi.
Ah non, mais j'entends bien. Mais le souci, c'est que de ce fait, si vous voulez, et on le voit bien, hein, comment il y a eu la moitié de loi qui est passée chez nous. Toute critique de l'État d'Israël est assimilée à l'antisémitisme, et ça, c'est particulièrement pénible parce que même un député Renaissance qui faisait partie du collectif France-Israël, donc un collectif de soutien à Israël, l'a quitté parce que, selon un article du Canard enchaîné, il disait l'atmosphère était irrespirable. Toute critique de la politique de Netanyahou était considérée comme, vous êtes antisémite ou quoi.
Bon, après, ça c'est une instrumentalisation classique. C'est la droite, c'est la droite et l'extrême droite, mais en fait, cette instrumentalisation-là, elle est même probablement au-delà de la droite et de l'extrême droite. Je veux dire, c'est utilisé par plein de gens, mais en réalité, c'est très malhonnête. C'est excessivement malhonnête. Et en fait, au-delà d'être malhonnête, ça dessert complètement.
Ah bah oui, on est d'accord.
Et ça nuit complètement à la lutte contre l'antisémitisme, puisque après, ça donne du grain à moudre à des antisémites
qui
peuvent ensuite se dire, non, mais écoutez, nous, on n'est pas antisémites, puisque de toute façon, tout le monde est antisémite, puisque personne ne l'est, puisque, etc., etc.
Voilà. Et là, avec l'apothéose, pour moi, c'est la manifestation, au cours duquel, il n'y a plus d'antisémites, puisque, comment dirais-je, même l'extrême droite manifeste.
C'est de la politique, sans droite. Moi, j'avais une autre question à vous poser, naïve, évidemment, parce que je ne connais pas très bien, malheureusement, on va dire, la culture juive actuelle, même si je connais l'histoire. Bref, est-ce qu'on peut être d'origine juive athée et se considérer d'une culture juive?
Oui, moi je rentre dans cette case, je pense.
Voilà, vous êtes athée, je sais pas si c'est... vous êtes d'origine juive, athée.
Bon, disons que j'ai défini ma spiritualité à ma propre façon. Non, mais après, voilà, moi, ma culture juive, on va dire, est plus dominante que l'aspect religieux, c'est sûr.
Enfin, moi, pour parler de moi, je suis athée de culture catholique, et le nombre de fois où j'utilise « Ah, mon Dieu, ah, Seigneur », enfin, vous voyez, ce genre de truc, alors que je suis athée parce que je suis de culture catholique, et je vais fêter Noël parce que je suis de culture catholique, même si je crois plus, enfin, bon, bref, même si je ne suis pas un croyant. Enfin, voilà,
oui,
c'est la question.
Ouais, ouais.
C'est une question.
Ah, c'est une question. Est-ce qu'on peut être de culture juive, être athée, mais défendre quand même sa culture? Voilà, c'est un peu ça le raccourci.
Voilà, là, c'est une question.
Bah, en fait, je pense qu'il dans cette question, il y a un point qui est central quand même et qui est important de poser. C'est en fait, est-ce que être juif, c'est être religieux? Réalité, non. Ce n'est pas ça. Ça peut être ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien être juif parce que religieux. D'ailleurs, c'est plutôt le cas des convertis. Les convertis se convertissent au judaïsme puisque c'est plutôt la religion qui les... Ça peut être aussi la communauté, etc. Mais c'est surtout la religion qui va les emmener vers le judaïsme. Mais il y a des gens qui naissent juifs. Alors, si le monde entier, depuis des milliers d'années, n'avait aucun problème avec les personnes juives, probablement qu'on serait resté une religion et qu'on aurait... ça aurait été très bien aussi. Mais ça n'a pas été le cas. Et en fait, pourquoi est-ce que être juif, c'est au-delà d'une religion? C'est parce qu'en fait, il y a se considérer juif pour soi-même et il y a être considéré comme juif par les autres. Et ça, c'est deux choses qui sont fondamentalement
différentes. Et ça contribue à créer une sorte de communauté aussi, du fait qu'on ait fait de la misère à la communauté juive depuis des siècles, depuis le Moyen-Âge. Parfois, ils rendaient service au Moyen-Âge, des rois de France les ont fait venir parce que ça va faire venir le business, puisque vous n'aviez pas le droit de posséder la terre, etc., d'autres saloperies. Et par contre, quand il y a des mouvements, bon allez hop, pouf, pouf, vous êtes tous des vidants, on vous chasse. Par contre, tout ça, c'est l'histoire. Mais moi, ce que j'aimerais bien, sans remonter à Trotsky, parce que on a souvent accusé la communauté juive, alors pas d'être des wokismes, parce que avant le wokisme, n'existait pas. Avant, quand on était de gauche, on vous soupçonnait d'être judéo-gauchiste ou comment. Maintenant, on nous traite d'islamo-gauchiste. Bref, vous, en tant que jeune juif révolutionnaire, JJR, c'est bien ça?
Oui, ça c'est juif et juif révolutionnaire.
Voilà, tout à fait. Excusez-moi. Et comment dire, quels sont les combats justement que vous menez? Comment justement vous mettez en avant le fait d'appartenir à une communauté et d'avoir une opinion de gauche et même révolutionnaire? À travers quelles actions? À travers, c'est ça qu'on voudrait savoir au-delà du collectif oui. Golem, quoi. Voilà.
Dans mon travail, je suis dessinateur de BD. Alors, j'ai une partie de mon militantisme que je vis à travers mon travail. Je milite, du coup, dans le cadre de JJR. Et donc, dans JJR, on produit de la pensée, on produit de l'analyse politique. On essaye, justement, d'adresser un peu des problèmes d'antisémitisme, mais pas que. Bon, principalement d'antisémitisme, mais pas que. Le credo, on va dire, à Juifs et Juifs révolutionnaires, ce serait de dire qu'on lutte contre l'antisémitisme d'où qu'ils viennent, mais principalement dans les milieux de gauche, puisque lutter contre la droite et l'extrême droite, c'est un prérequis, je pense, pour un mouvement qui se nomme révolutionnaire.
Mmh.
Et lutter contre la tendance à la droitisation, des tendances aux droitisations dans certains milieux juifs.
Alors, justement, vous parlez de... Je vous avais posé la question quand on a un peu préparé l'émission. J'entends souvent des journalistes dire « Oui, est-ce qu'on peut parler d'un antisémitisme de gauche ou d'extrême gauche ?» Alors que vous en pensez quoi, vous, chez vous puisqu'il y a...
Vous parlez de la France Insoumise indirectement?
Non, 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 surtout de la Mélenchon qu'on accuse d'être clairement antisémite, pas la France Insoumise.
Bah, en réalité, moi j'aurais tendance à dire que déjà Jean-Luc Mélenchon est son propre cas, mais c'est pas le seul. Et en fait, je préfère ne pas parler forcément des cas...
Mais vous aviez eu une belle formule.
Bah, ma formule, ça va être de dire que...
Il n'y a pas d'antisémitisme de gauche, mais il y aurait un antisémitisme à gauche. C'est là-dessus que j'aimerais bien...
Il y a plutôt de l'antisémitisme à gauche. C'est-à-dire que l'antisémitisme, il y en a un. D'ailleurs, c'est pour le coup, je profite de ça pour poser une vraie question que moi je me pose. C'est-à-dire, est-ce que l'antisémitisme est encore le meilleur terme pour définir ce qu'on veut essayer de définir, dans le sens où c'est quelque chose qui se reproduit, qui change de terme, qui change de mot. C'est ce sentiment, comme on le revoit, en fait, se répéter de « les juifs représentent le pouvoir invisible qui contrôle le monde en secret ». Et ça se traduit sous plein de formes différentes, à travers, comme vous avez dit, les premières théories du complot catholique, des juifs qui ont tué Dieu, qui boivent le sang des enfants.
Et mort aux juifs qui...
Il y a aujourd'hui des théories du complot qui peuvent aller jusqu'à dire que Israël contrôle les États-Unis et par ailleurs le monde à travers un lobby international.
Et mort aux juifs qui ont assassiné le Christ, qu'on disait jusque Vatican II, dans les églises, en latin.
D'ailleurs, on parlait de Jean-Luc Mélenchon, c'est une formidable phrase qu'il avait dit, je crois, en 2020 à la télévision.
C'est vrai.
Sur BFM TV, qu'il ne savait pas comment Jésus. Enfin, je sais plus quoi, que les juifs ont tué Jésus, en gros.
un peu.
Il a mal digéré son caté.
Ça peut arriver.
Ouais, mais en fait, justement, c'est intéressant parce que j'avais regardé une émission où étaient passés des camarades Jonas Pardo et Elena Weisman. Donc, Elena Weisman, sociologue, Jonas Pardo, formateur à la lutte contre l'antisémitisme, et ils étaient face à Alexis Corbière, à qui ils ont justement parlé de cette anecdote. Et en fait, l'idée, c'est pas de dire Mélenchon est un affreux antisémite, parce qu'en fait, je pense que, honnêtement, toute personne juive a clairement mieux à faire de son temps que de passer son temps à détester Mélenchon. Il y a d'autres choses plus intéressantes à faire dans la vie. Mais il illustre, en fait, un problème qui est, Jean-Luc Mélenchon va dire quelque chose d'antisémite, et en fait, il va pas être remis en question. Pour moi, c'est ça le réel fond du problème. C'est-à-dire qu'il est soit pas remis en question, soit il est protégé. C'est pas lui la source, en fait, de l'antisémitisme. C'est pas lui qui l'a inventé, c'est pas lui qui gère tout. Mais par contre, il en véhicule. Mais il en véhicule au même titre que d'autres organisations à gauche. Et le problème, il est là, en fait. C'est que il n'y a pas des personnes à gauche qui sont antisémites et c'est des exemples, enfin, des exceptions, pardon. Mais c'est plutôt que l'antisémitisme étant un phénomène qui n'est pas incarné dans des personnes et des individus, mais qui est plutôt un phénomène qui traverse les couches sociales et qui se diffuse dans la société, eh ben, il est présent à gauche. C'est comme le nuage atomique qui s'est arrêté aux frontières de la France. Enfin, l'antisémitisme ne s'arrête pas au Parti Socialiste. Ça n'a pas de sens de concevoir ça comme ça, au même titre que le racisme ne s'arrête pas aux portes, enfin, je dis Parti Socialiste au pif, mais aux portes de la gauche.
Il nous reste 2 minutes, j'aurais juste une question, parce que là on parle de l'antisémitisme, ou de pas aimer les juifs pour résumer, enfin d'après ma version à moi, même si elle est peut-être un peu fausse, au niveau religieux, mais il y a eu aussi une saloperie de bouquin qui s'appelle « Les protocoles des sages de Sion », qui a donné la réputation, le juif est, a fait un complot, est proche du pouvoir, est millionnaire, patati, patata, et j'ai l'impression que c'est ce ressort-là. Alors que ça a été prouvé par A plus B que c'est un faux de chez faux, etc.
C'est pas tout à fait un faux, c'était commandé par le tsar, Nicolas II.
Mais quand on demande...
Vrai, j'ai l'impression qu'il vous entend plus.
Vrai. Allô, allô.
Je sais pas si vous m'entendez.
Si nous on vous entend, est-ce que vous nous entendez, Sender, monsieur Sender, est-ce que vous nous entendez?
Ah
merde.
Ah là là, attendez, il y a Tom qui est là.
Je vais attendre.
Attendez, notre technicien, monsieur...
Est-ce que vous entendrez?
Monsieur Sender, nous sommes toujours à l'antenne. Nous, par contre, on vous entend toujours. Et Jean-Loup parlait du collectif du protocole des sages de Sion.
Ah, bon, écoutez, un petit disque. On va se mettre un petit disque.
Et tu le rappelles.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
We'll be right back.
Allô, allô.
Oui, allô.
Oui, ouais. Excusez-nous, on a eu un problème. Et c'est vrai que comment Jean-Loup évoquait l'histoire du
protocole
des sages de Sion qui a étendu la haine anti-juive au-delà du problème religieux à l'espèce de complot reptilien. C'est-à-dire, vous allez être les maîtres de la Terre.
Eh bien, en réalité, le protocole des sages de Sion n'a rien inventé. Il a fait que recycler, justement, encore une fois, je le répète, c'est, il a recyclé avec une sémantique nouvelle, hein, même
il l'a remis au goût du jour, quoi, on va dire.
Oui, c'est ça, il a juste modernisé. Alors, on sait en plus plus ou moins d'où il vient. Alors, on ne sait pas nommément qui l'a fait, mais on sait que c'est la police secrète du Tsar, fin 19e.
D'après, il y a une excellente bande dessinée, vous qui êtes dessinateur, il y a une excellente bande dessinée de Will Eisner, qui ne cache pas non plus ses origines juives, qui a écrit une adaptation des protocoles du sages de Sion, où on a toute l'histoire avec la commande de Nicolas II, cette espèce d'écrivain merdeux qui a écrit cette horreur, mais qui a été repris Et d'ailleurs, je crois que c'est dans les pays arabes aujourd'hui que ça...
Il nous reste 10 secondes, je suis désolé, mais finalement, j'ai l'impression que l'antisémitisme actuel est plus proche du protocole des sages de Sion que du côté religieux basique.
Eh ben, pareil, l'antisémitisme peut prendre plusieurs formes. Alors effectivement, si on parle d'antisémitisme, on est plus proche des protocoles des sages de Sion, dans le sens où c'est la même époque. Le terme d'antisémitisme et l'imagerie antisémite des caricatures et compagnie arrivent près dans cette époque-là, une époque du 20e siècle, c'est un peu l'explosion, enfin le 19e aussi. Mais il existe encore des gens qui sont tout à fait antisémites à l'ancienne, disons. Enfin, même si les protocoles, c'est à l'ancienne un peu aussi, mais... Pour donner l'exemple, un grossier, mais qui parle de lui-même, la dissolution de Civitas, il n'y a pas si longtemps, parce qu'il y avait eu un invité en conférence.
Il a un peu cracoté.
La crise migratoire, c'était à cause de l'émancipation des Juifs lors de la Révolution.
J'ai entendu.
Là, on est sur des réactionnaires pur jus, quoi.
J'ai entendu son intervention. Je me demande à quoi ils tournent, ces gens-là.
Sander, je suis désolé, il va falloir qu'on coupe, parce que l'heure, c'est l'heure. Par contre, vous le rapprochez surtout pas, parce que. Roger a plein de trucs à vous demander comme ça, mais...
On va essayer, parce que le téléphone, je ne suis pas sûr que vous entendez, on va essayer.
Eh bien, en tout cas, on vous remercie d'avoir passé un petit peu de temps avec nous, c'est très sympa. Et puis, on vous dit, pourquoi pas la prochaine fois.
Et moi, je vous dis, salut, à la semaine prochaine, normalement.